Let's go. Alors.
Oui, Julie, bonjour, c'est Marie à France Culture. Je vous appelle parce qu'on est à l'adresse que vous nous avez indiquée, mais il manque un petit digicode. Ah, ok.
Ok, super. Merci beaucoup, à tout de suite.
Ok, and then... Comme ça.
Vous pouvez entrer.
C'est sympa.
France Culture. Le Book Club.
Salut.
On en parle là ?
Ouais, allez-y. Merci. Ma grand-mère, elle m'a envoyé, je crois, la dernière émission qui est sortie. Je lui ai dit, mais c'est ça que je veux faire, dont je t'ai parlé. C'est
dans la bibliothèque de Giorgio.
Ah, trop marrant. Ouais, mais sans que ça. Vous lui avez dit ?
Bah ouais, ouais bah, je lui avais dit que j'allais faire cette. Patrick Bouchain.
Trop marrant. Ouais.
Moi aussi, je suis content de parler de mes livres.
Marie Richaud. Une grand-mère qui part, c'est une bibliothèque qui brûle. Ça, c'est la première phrase d'un des morceaux phares de l'album Bleu Noir, paru en 2015. Le rappeur Giorgio y parlait des liens profonds qui l'unissent à sa grand-mère, du flot d'amour inattendu, des galères, de quelques regrets et des livres, donc. Ce n'est pas le seul morceau dans lequel on croise le goût du musicien pour la lecture. Lire des livres, c'était d'abord s'assurer de pouvoir parler à égalité avec celles et ceux qui avaient fait plus d'études pour celui qui dit avoir toujours détester l'école. Puis c'est devenu une manière d'avoir rendez-vous avec soi, puis d'avoir rendez-vous avec les autres. Et aujourd'hui, c'est un des sujets de discussion du soir avec son amoureuse. Dans la bibliothèque de Giorgio, les poètes sont nombreux. Le philosophe Marc Aurèle distille des pensées pour soi-même. On se souvient du Belleville dépeint par Romain Gary. Et l'on dit combien se voir représenté dans un texte fait le même effet que se voir représenté dans un morceau de rap. Ça transforme l'existence. Il y a un mot que Giorgio répète plusieurs fois dans cette conversation, c'est la curiosité. Et cela semble être une des forces motrices de son parcours déjà si riche. On l'écoute déballer sa bibliothèque pour le book club.
C'est comme...
Ok,
bah, let's go.
Bah, merci beaucoup de nous recevoir.
Avec plaisir.
Ça commence toujours ces portraits de bibliothèque en demandant où sont les livres chez vous. Donc on en aperçoit un petit peu ici, mais je vous laisse nous guider dans les endroits où il y en a.
Il y en a un petit peu partout. Il n'y a pas assez de bibliothèque chez moi pour tous les livres. Pour commencer, il y en a un petit peu dans ma chambre. Il y a un peu de tout. Il y a une BD, l'histoire de Jérusalem.
Par qui ?
Par Vincent Lémire et Christophe Gaultier.
Okay.
Et ça, je n'ai pas lu ça. C'est ma copine. Ça, c'est un livre que m'a prêté mon manager, It, enquête sur la fabrique des tubes planétaires.
Okay.
Donc c'est Antoine, je vais le lire très prochainement, sur un peu la démystification de la création des tubes, que ce soit de Britney Spears, Rihanna, Katy Perry. Ça c'est les livres que j'ai prévu de lire prochainement, généralement qui sont près de mon lit, ou que j'ai commencé et que j'ai pas continué. Créativité, un art de vivre, c'est la version française du livre de Rick Rubin, qui est un grand producteur, qui a produit des albums aussi bien de rock pour les Red Hot, que pour Jay-Z ou Eminem, ou même du métal, etc. Ça, c'est un livre que j'avais commencé, et en fait, je me suis perdu dans... Parce que c'est un peu mon problème, c'est de me perdre dans les livres et d'en commencer plusieurs en même temps, parfois. Ouais. Et je sais qu'il faut que j'y retourne, c'est Ami Malouf, Léon l'Africain. Ouais. Et moi, j'adore l'histoire, j'adore aussi... comprendre aussi la société, donc ça passe vachement par l'histoire, les voyages, etc. Et du coup, Léon l'Africain, c'est un bon livre qui raconte bien tout ça. Puis Amine Malouf, c'est un écrivain safe, donc c'est OK. Je crois qu'il y en a un petit peu aussi encore, mais là, je crois que c'est plus de l'autre côté de la poésie, il me semble. Alors, La religion de l'amour de Rumi.
Ah oui, ouais, Soufi.
Pour être Soufi, et que j'avais découvert après avoir lu Soufi, mon amour, je crois, non ? Qui est entre guillemets plus mainstream et qui du coup m'a fait découvrir Henri Michaud.
On continue ?
On continue, ouais, là on est un peu dans la pièce principale, salle à manger, cuisine, salon, quoi. Et donc ça, c'est y a pas mal de livres d'art un peu ici. Je pense sur des expos, Barbara, le mouvement qui raconte toute une période de terrain vague de la chapelle, donc le début du hip-hop en France, la culture. Et après, il y a, pas mal de livres là qui sont à ma copine, donc j'ai pas trop envie d'en parler.
Okay.
C'est un magazine d'un groupe anglais que j'aime trop qui s'appelle Sad Night Dynamite. Dynamite, quoi, en gros. Et c'est un petit magazine de collection qu'on m'avait offert. Donc, avec pas mal de photos, de textes, etc. Et après, du coup, il y a. Donc, nous, on aime vachement lire.
À la maison.
Avec ma copine, ouais, du coup, là, c'est toute sa bibliothèque.
Ok. Du coup, bon, on lui laisse sa bibliothèque.
On lui laisse sa bibliothèque. Avec
elle. Ouais. Voilà. Mais vous piquez dedans de temps en temps, ça fait partie des échanges
et... Ah, bah ouais, ça fait carrément partie des échanges. Il y a des moments où on aime bien presque lire un livre en même temps pour pouvoir échanger, que ce soit presque nos conversations du soir, quoi. Et parfois, quand l'un ou l'autre sait pas quoi lire, ou en fonction des conversations qu'on a dans nos vies, de ce qu'on va écouter, de ce dont on va parler, regarder comme film, ça veut dire, ah, mais moi, j'ai lu ça, c'est trop bien, faut que tu le lises, etc. Donc voilà, quoi, ouais.
Trop bien. Un book club à la maison.
Ouais. Et puis là, c'est ma bibliothèque. Alors moi, elle est plus en bordel.
Elle est belle.
Ah, merci beaucoup. En fait, moi, je suis pas du tout manuel et je l'ai monté moi-même. Et ça, j'en suis assez fier.
Franchement, elle est vraiment très belle.
Et donc là, il y a... Ça, c'est vachement... C'est que des romans.
Ça, ouais. C'est votre attaché presse qui casse votre guitare.
Ouais. Mais parce que mes guitares sont malheureusement très mal rangées. C'est un peu le bordel. Et donc là, tout en haut, ça va être les romans classés par ordre alphabétique. Et en bas, c'est de la poésie. Parce que j'aime bien lire les recueils de poésie, parce que le roman, j'y reviens jamais. Je crois que j'ai... À part peut-être...
J'ai relu.
Ouais, mais c'est même pas vraiment un roman. Je pense à Lettre à un jeune poète de Rilke. Mais c'est des lettres que j'ai déjà lues plusieurs fois. Mais sinon, je n'arrive pas à relire des romans, parce qu'il y a tellement de romans que j'ai toujours envie d'en découvrir des nouveaux, que découvrir des nouveaux auteurs. Il n'y a pas assez d'une vie pour la littérature internationale. Mmh. Du coup, c'est difficile d'y revenir. Alors que la poésie, je peux y revenir beaucoup plus en fonction de poèmes. Parce que aussi, je pense que je vais plus facilement oublier un petit peu un poème. Et donc, et j'aime bien aussi parce que c'est un format qui est beaucoup plus court et dans ce sens-là qui m'intéresse aussi.
Et donc, il y a... Je sais pas, on plonge un peu, Sandrard, Césaire.
Ah ouais, on va retrouver Apollinaire. Ça c'est, ouais, c'est mal, c'est Didier Ribon, Retour à Reims, c'est très mal rangé. Juste en dessous, il y a les quatre évangiles, donc, qui sont beaucoup plus religieux. Léonard Cohen aussi, des textes. Éluard, Victor Hugo aussi, Mayakovsky. Voilà, Michaud, encore une fois, qui est comme à côté de. Henri Michaud, je pense que c'est un de mes poètes préférés.
Là, je regarde, donc je sais pas, il y a Toni Morrison.
Ouais.
Kafka, Kristeva.
Donc ouais. Après, il y a de tout. Après, c'est quand même ce que j'aime le plus, c'est quand même les romans, en vrai. Voilà, François Sagan, Salinger, Patti Smith aussi. Just Kids. Je pense que c'est j'aurais pu le mettre dans ma liste des cinq livres parce que c'est, je pense, c'est un livre qui m'a redonné envie de découvrir plein de choses, de me réintéresser à Rimbaud. Ça m'a redonné envie de découvrir toutes les références musicales dont elle parle dans le livre. Et puis je trouve ça hyper fort de parler de toute une période comme ça qu'elle a vécue, et d'une période hyper galvanisante de ce New York des années 80, avec les soirées avec Andy Warhol, elle, son rapport à l'art, avec Janis Joplin et tout, parce que c'est une période en plus qu'on a encensée musicalement. Et bon, comme
à raison,
et comme moi la musique c'est ma passion, ça me parlait vachement. Et d'ailleurs, il y a le juste à côté qui est mal rangé, le livre Le Monde d'hier de Stefan Zweig. Et finalement, pour moi, Le Monde d'hier de Stefan Zweig, c'est un peu ce qu'a fait Patti Smith avec Just Kids, où il raconte aussi ses références, ce qu'il aime, sa vie à Vienne, etc. Et tout. Et donc ouais, voilà.
Une grand-mère qui part, c'est une bibliothèque qui brûle, et comme d'habitude, C'est le silence qui hurle, c'est toute ton armure qui vient velours. C'est l'air grec qui croise l'horloge et court jusqu'à Yom Kippour. C'est trop d'interrogations et sans être cru. Imagine New York sans la 5ème avenue, toi qu'a porté ma mère. C'est vrai qu'ensemble on a croisé le fer, c'était pas facile pour toi quand j'étais tout en bas de l'échelle. Et aujourd'hui dans mon cœur, il y a ta culture, tes auteurs, la déco de chez moi trouvée dans des vies d'ordures. Il y a aussi tes peintres et tes sculpteurs, on y retrouve la chaleur de l'hiver. Pour un fumeur, la selle Saint-Cloud, c'est l'ennui, mais aussi la scène, si différente de la mienne. Du haut de ta fenêtre grand-mère, les oiseaux et la solitude, et des forêts de classe moyenne qu'on manipule. Je passerai bientôt te voir à la selle Saint-Cloud, on ira contempler ses rives, comme tu regardes tes rides dans un miroir. Profiter de la neige comme mon père, qui revient d'Afrique et puis repart. Oh grand-mère, je passerai bientôt te voir à la selle Saint-Cloud, on ira contempler ses rives, comme tu regardes tes rides dans un miroir. Profiter de la neige comme mon père, qui revient d'Afrique et puis repart. Tu t'es retrouvé à 70 ans dans le rôle d'une mère, je t'en ai fait voir de toutes les couleurs, aucune fierté, juste des douleurs. J'ai fait déchaîner la houle, puis des années d'absence, j'ai mis les voiles et mon bateau avance dans l'orgueil de l'homme. Toutes les larmes sont déferlantes, la tête à l'envers de ton silence, je suis perdant. La selle Saint-Cloud, la gare, les trains tout tagués, j'ai largué les amarres et je reviendrai plus tard comme si de rien n'était. Et tu feras de même, je sais que tu m'aimes plus que cette mauvaise vague, plus qu'un tsunami quand on parle toute la nuit des cendres de mon grand-père sur le mont Valérien, des religions oubliées, puis des anges car elles me voient d'un autre monde aérien. Raconte-moi ta Normandie, ta vie dans le 14e, je dévoilerai mes promesses, j'oublierai ni virgule ni parenthèse, du haut de ta fenêtre grand-mère. Le feu d'artifice, la vie en point de vue, mais nos yeux ne sont pas magnifiques. Je passerai bientôt te voir à la selle Saint-Cloud, on ira contempler ses rives, comme tu regardes tes rides dans un miroir. Profiter de la neige comme mon père, qui revient d'Afrique et puis repart. Oh grand-mère, je passerai bientôt te voir à la selle Saint-Cloud, on ira contempler ses rives, comme tu regardes tes rides dans un miroir. Profiter de la neige comme mon père, qui revient d'Afrique et puis repart. Je sais à quel point t'es heureuse de m'avoir dans tes bras, beaucoup trop d'amour que je n'attendais pas. J'ai honte de l'enfer qu'on a vécu tous les deux. Les yeux dans les yeux, c'est le feu dans les cieux. Et ne me cache pas ta peur de demain. Et combien même que le temps passe, tu peux être fier de l'adulte que je deviens. T'as vu à quel point on se ressent même quand on parle de musique. Tu comprends le rap mais que les ados qui veulent en vivre. J'aime trop ta sensibilité quand tu parles des autres. Tes mots sonnent juste dans ta bouche, rarement de faute. Je t'avoue que j'ai quand même plein de choses à te dire, à te reprocher. Mais faudrait une autre chanson, une autre rime, un autre projet. Je t'avoue que j'ai quand même plein de choses à te dire, à te reprocher. Mais faudrait une autre chanson, une autre rime, un autre projet.
Nous, on va parler de la lecture avec vous. Il y a un morceau qui parle assez directement de la lecture, qui commence vraiment par le lien entre une grand-mère et une bibliothèque. Et il y a d'autres morceaux dans lesquels très clairement il y a une, ouais, il y a des références à des lectures que vous faites, comme ça, juste en les attrapant. C'est pas lourd, c'est pas pour dire, ouais, je suis Giorgio et je passe mon temps à lire et je suis spécialiste de la littérature, mais il y a une forme de présence quand même de la lecture dans vos morceaux. Est-ce que vous pouvez raconter, je sais pas, l'histoire d'habitude dans le book club, on dit, est-ce que vous vous souvenez, quand est-ce que vous avez appris à lire? Quel genre de lecteur vous étiez? Est-ce qu'il y avait des livres chez vous ou pas? Et comment est-ce que vous avez pris goût à ça?
Alors, j'ai appris à lire à l'école, tout simplement, même si j'étais très peu scolaire. Et puis, j'ai pas souvenir de livres chez moi, énormément. Chez moi, il y avait énormément de musique. Vraiment, tout le style de musique différent, mais j'ai pas souvenir d'énormément de livres. Chez ma grand-mère maternelle, il y avait énormément de livres. Et il y en a toujours. Mais je pense que je les voyais sans les voir. C'est-à-dire que petit, par contre, du coup, je lisais plusieurs styles de BD que je pouvais retrouver chez elle, etc. Mais pas de rapport particulier au roman. En fait, moi, j'ai toujours détesté l'école. Et pour moi, la lecture était presque une discipline scolaire, quoi. Mmh. C'était un moment, pour moi, qu'un effort. Et donc, du coup, moi, j'ai lu très, 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 très tard. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, moi, j'ai arrêté les cours très tôt, avant le bac. Et j'ai quand même toujours été curieux dans ma vie. Et à un moment, je me suis dit, j'avais pas envie de me sentir inférieur à des personnes qui auraient pu faire des grandes études ou quoi que ce soit. Que ça soit dans ma manière de m'exprimer, dans ma manière de, d'être ou de purement de connaissance. Et naïvement, du coup, je devais avoir 18 ans, je crois. Et j'avais un pote qui lisait pas mal et tout, de la philosophie. Il m'avait prêté un livre qui s'appelait « Penser pour moi-même », je crois, de Marc Aurèle. Et donc, c'est un peu le premier livre que j'ai lu de moi-même, parce que avant, en cours, je m'arrangeais un peu pour avec Internet pour faire semblant d'avoir tout lu, quoi. J'ai le souvenir d'avoir lu quand même en cours le Orla de Maupassant, mais j'ai très peu de souvenirs de tout ça. Et après, du coup, en fait, c'est cette période-là où le rap, ça a commencé à marcher pour moi. Et comme j'avais beaucoup plus de disponibilité à l'époque, j'avais accepté d'aider un étudiant qui faisait un mémoire sur le rap. Et on s'était donné rendez-vous, je me rappelle très bien, c'était dans une chaîne de fast-food de mon quartier à Max-Dormois dans le 18e. Et en fait, il m'avait conseillé un livre, c'était « La vie devant soi » de Romain Gary. Et donc, c'est le premier roman que j'ai lu finalement en acceptant la littérature, sans le moindre a priori, etc. Et j'avais adoré ce livre pour plusieurs raisons, parce que ma grand-mère, quand elle était arrivée à Paris très jeune, elle est arrivée à Belleville. Et donc, comme on a souvent parlé avec ma grand-mère, c'était un Paris que je connaissais. Et donc, ça faisait allusion à des conversations que j'avais pu avoir avec ma grand-mère, à des souvenirs de ma grand-mère qu'elle m'avait raconté. Et voilà, moi, quand je suis arrivée à Paris à 15-16 ans, j'ai habité dans le 18e, entre La Chapelle et Max-Dormois. Donc, ça veut dire que Belleville, c'est un Paris que je connaissais vraiment hyper bien. Donc, d'un coup, moi, j'avais une vision un peu naïve de la littérature, qui était, j'avais l'impression que c'était un plaisir de bourgeois qui parlait de pâquerettes et de roses. Et en fait, d'un coup, je me suis dit, ah ouais, non, en fait, il peut y avoir des histoires d'amour, parce que La vie devant soi, c'est une histoire d'amour presque un peu maternelle, même si c'est pas vraiment sa mère, dans un Paris qui est difficile, que moi je connais. Et en fait, ça m'a fait le même sentiment que le rap, c'est-à-dire un sentiment où je pouvais m'identifier. Et avant d'avoir lu ce livre, j'avais l'impression que je ne pouvais pas m'identifier à la littérature et que la littérature ne m'était pas accessible. Donc c'est vraiment à travers ce livre-là. Et maintenant, si j'en parle dans ma musique, c'est parce que je prends un vrai plaisir à lire. Pour moi, je peux apprendre des tas de choses ou m'évader, en fait. Juste m'évader, comme quand je joue à la PlayStation, parfois un jeu vidéo. Et en fait, je mets pas la littérature au-dessus de la PlayStation ou en dessous, c'est juste différent. Et en fait, je me dis que aujourd'hui, quand je vois bien du milieu populaire dans lequel je viens, ou quand je vois beaucoup de mes amis qui lisent très peu, voire pas, et ben je me dis que si je peux placer une référence littéraire dans un texte à travers voilà une idée, une image, un livre précis, un écrivain ou quoi que ce soit, et ben si ça peut donner la curiosité à une seule personne d'ouvrir un livre et finalement de se dégager du temps pour ces moments-là et de pouvoir s'évader ou y trouver quelconque plaisir, ben je me dis que c'est une victoire et c'est pour ça que je le fais.
Il y a un point commun aussi entre le rap et La vie devant soi de Romain Gary, puisque vous parlez de la nécessité de se voir représenter ou de reconnaître quelque chose de soi. Donc en effet, c'est quelque chose qui est très présent dans le rap et qui a été un levier politique et artistique très important et qui peut se trouver dans la littérature. Mais il y a aussi la langue, c'est-à-dire que lire La vie devant soi de Romain Gary, c'est aussi découvrir la manière dont un homme écrit, se plonger dans un style, et c'est un plaisir tout à fait similaire avec la manière dont un tel ou une telle va pouvoir rapper et dont on va découvrir une manière à la fois d'écrire et aussi une manière de se poser sur le son. Est-ce que vous avez ce goût-là ? Est-ce que c'est un truc qui est comparable pour vous ?
Ah oui, complètement, parce que c'est y a une musique dans la littérature, dans les phrases, dans le rythme, comme il peut y avoir dans la musique, dans le rap, en plus notamment avec le flow. Les écrivains ont aussi leur flow et leur champ lexical. Et donc on a forcément certains qui vont me toucher plus que d'autres à tous les niveaux. Donc c'est sûr que là-dessus on peut faire un comparatif, oui.
Et vous aviez déjà ce goût pour les mots, pour le vocabulaire, avant de rencontrer la lecture ?
Complètement, grâce au rap. Et moi, c'est ça que j'ai aimé dans le rap. C'est que moi, en fait, mes parents, notamment mon père, il avait plus une culture rock, voire punk. Même mon premier morceau de rap, c'est lui qui me l'avait fait découvrir. C'était This Is, Je pète les plombs. Après, le rap, c'est venu aussi avec ma tante qui m'a offert un single de 50 Cent qui s'appelait Indat Club. Mais du coup, chez moi, il y avait quand même beaucoup plus de rock. Et en fait, c'est quand je suis arrivé au collège, j'étais en sport-études basket. Et avec le basket, il y a l'univers du hip-hop, la culture rap est très liée. Et en fait, du coup, tous mes potes, ils écoutaient plus du rap. Et en fait, c'était aussi la musique de mon environnement. Et donc, du coup, moi-même, je me suis mis à écouter du rap. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'était à quel point je pouvais m'identifier dans cette musique. Et c'est vraiment le rap qui m'a sensibilisé aux mots. Et donc,
Vous n'aviez pas un rapport aux mots, un rapport à l'écriture. Vous n'étiez pas ni en train d'écrire, ni en train de phaser avec vos copains avant d'écouter du rap.
Non, parce que même quand j'ai commencé le rap, j'aurais préféré qu'on m'écrive mes textes. Pour moi, c'était un effort qui était presque scolaire que d'écrire des textes. Moi, ce qui me plaisait, c'était de rapper. Et en fait, c'est au fur et à mesure, mais ça arrivait très tôt, parce que j'ai commencé à écrire à 14-15 ans. Et j'ai commencé à écouter du rap à 11-12. Mais du coup, en fait, c'est vraiment venu. En fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était les mots qui me touchaient à travers le sentiment d'urgence, les fantasmes, les rêves qu'il pouvait y avoir dans le rap, mais aussi la réalité, comment elle pouvait être décrite, etc. Et donc, direct après, moi aussi, j'ai eu envie d'écrire et de faire mon rap. Donc, en fait, j'ai su très vite que j'étais sensible aux mots, mais je pensais pas à la littérature. Ça, c'est venu dans un second temps.
De la pluie tous les ans, comme à Liverpool. Je suis fier de mes actions quand ma mère approuve. Moi qui étant désobéi, je sais que chaque année, elle me redécouvre. Pas de souvenirs dans le journal intime, tout dans la tête. Y'a pas de magie, ici faut faire deux fois plus d'efforts, comme un athlète paralympique. Je crois pas au hasard mais au timing. Je crois en Dieu, je crois en toi, je crois en l'amour, je crois en moi. Oh mon libre arbitre, AirPods 2h du matin, pareil sous mes semelles. Je rejoins mes potes, on parle de monter haut, de se faire la courte échelle et bien de finir au top. Enfant sauvage, nous étions que des enfants sauvages. T'es là, tu vis comme si on était tous au complet. Comme si rien n'avait changé, alors rien n'a changé. Parce qu'on a encore faim du soleil, parce qu'on dort toujours mal. Qu'on veut toujours des voyages, qu'on fraude le métro comme des enfants sauvages. Je réentends le vent entrecoupant nos voix. Quand on chantait sur nos vélos, à fond dans nos rêves, difficile de prendre du recul. Comme la crosse sur mon épaule, des cartouches sur le sol, des oiseaux qui s'envolent. Drôle de rapport avec la violence, fasciné par les armes, la nature gagnera. Toujours sur notre arrogance. Enfants sauvages, nous étions que des enfants sauvages. Nous étions torse nu dans la ville en plein été, accrochés à nos rêves de mots, mal idée de tout faire péter. Du sang sur nous comme sur le ciment ukrainien. Hormis tout après-demain, parle pas de style baudelairien. Non là c'est la vraie vie, celle qui mérite d'être vécue. Avec ses excès et ses garde-fous, loin de nous l'idée d'être comme les autres ou de finir à genoux. C'est nos codes qu'on bafoue. Pour ça qu'il y a le feu en bas de chez toi. J'aimerais moins de venin dans mon corps et plus de sagesse comme Athéna. Enfant sauvage, nous étions que les enfants sauvages, nous étions que enfants sauvages, nous étions que les enfants sauvages.
Culture, le book club, dans la bibliothèque de Giorgio, Marie Richeux.
On vous a demandé de choisir des textes, on appelle ça les textes étapes. On commence par celui de votre frère, ça vous va ou pas? Ça vous paraît logique?
C'est très bien comme ça. Okay. Ouais, du coup c'est un livre qui s'appelle « À l'ombre des choses » qui est le premier roman de mon petit frère. Et pour moi, les liens familiaux sont sacrés. Et mon petit frère et moi, on est très, très, très soudés. c'est un protagoniste de ma musique. Souvent, je parle de la fraternité dans mes morceaux. Je peux parler de mon petit frère, de choses qu'on a vécues ensemble, etc., comme on est très proches. Et donc, il sort son premier roman, qui vient tout juste de sortir. C'était obligé d'en parler et de lire une page de son livre.
Et il se trouve que c'est aussi un livre où il raconte son propre cheminement par rapport à l'écriture, où le personnage principal écrit mais ne le dit pas, écrit sur la place de la République, rencontre un homme qui voit qu'il l'écrit et qui petit à petit aussi le partage avec son frère. Enfin, il y a une dimension assez secrète de l'écriture au départ, comme s'il y avait la nécessité de se faire une place. Ça veut dire qu'entre vous, la question de l'écriture, c'est à la fois un truc en commun et quelque chose qu'il a fallu s'avouer presque.
Bah ouais, mon frère il a toujours été plus discret, il a toujours plus accepté. Moi très tôt je m'indignais contre mes parents, contre la société, je criais, etc. Mon frère lui il avait à mon sens choisi la voie d'éteindre la sienne et d'être beaucoup plus discret pour pas faire de vagues, etc., parce que aussi je pense qu'il voyait aussi que son grand frère c'était pas toujours facile, et donc du coup de pas faire subir ça deux fois à nos parents. Et donc du coup, enfin, l'écriture est arrivée plus tard, et c'était et donc du coup, ouais, il y a un autre rapport aussi, je pense. Et puis je veux pas trop en parler parce que je pense qu'il le ferait mieux que moi sur sa vie complètement.
Vous lisez un extrait?
Oui. Donc c'est un moment où il parle d'un voisin à nous quand on habitait dans un foyer, puisque après le divorce de nos parents, nos parents n'avaient plus d'argent. On vivait une semaine sur deux chez mon père qui vivait dans un squat au-dessus d'un bar, et avec ma mère on vit dans un foyer, Sonacotra. Voilà, qui était très petit. Et donc c'est dans la deuxième partie de la page 14 où il écrit: dans l'immeuble, le malheur était repérable à un habit décousu, à un chiffon sur la tête, du vin en carton ou à un vieux sac plastique. Il était dans les doigts gelés et sous les paupières lourdes, dans les regards posés par terre, juste après un bonjour, juste après un bonsoir, juste après rien d'autre. Il fallait le regarder le moins possible dans les yeux. Dire bonjour, dire bonsoir quand même, oui, mais à voix basse, à peine audible. On se faisait chaque jour un peu plus taiseux. Cette France, pauvre, restait muette. « Bonne soirée, petit gars. » Monsieur Jacques refermait sa fenêtre, se dirigeait vers le frigo pour prendre une canette, puis se posait dans son canapé, réglant le volume du téléviseur au maximum. Et j'ai choisi cette page parce que, pour justement savoir ce que c'est que la difficulté financière, mais aussi la honte d'habiter dans un foyer, surtout que... on était dans une école où il y avait des personnes d'un statut social aussi assez élevé, etc., donc, qui pouvaient inviter des enfants à la maison. Quand on était au foyer, ma mère voulait pas qu'on invite des amis chez nous parce qu'elle avait honte d'où on habitait, alors que finalement, elle aurait pas dû avoir honte parce que c'était le début d'une reconstruction, c'était le début d'un combat, et ça demande beaucoup de force, d'autant plus quand on a des enfants, qu'on est divorcé, même si on était chez notre père une semaine sur deux. Et je sais ce que c'est que ce sentiment d'être silencieux, de, encore une fois, comme je disais, de se sentir représenté nulle part. Et donc, du coup, aujourd'hui, quand mon frère il écrit là-dessus, je me dis c'est fort parce que du coup ça ouvre des portes à plein de jeunes, mais pas que des jeunes, parce que à toutes ces personnes qui viennent de ces milieux-là, pour en fait aujourd'hui, et à travers mon frère Anatole, mais encore à travers aussi d'autres écrivains contemporains, ils peuvent se sentir aussi représentés. Et je trouve ça important que tout le monde puisse se sentir représenté. Et c'était important aussi pour moi de pouvoir dire aujourd'hui sur France Culture qu'il n'y a pas de honte à la pauvreté, et que c'est d'autant plus difficile quand on n'a pas forcément fait d'études, qu'on vient de milieux populaires, qu'on fait des métiers qui sont fatigants, que quand on rentre le soir, et que du coup, en fait, c'est difficile de sortir de la pauvreté, que du coup, quand on voit juste on allume sa télé pour se reposer le cerveau et qu'on voit des voitures qu'on pourra jamais s'acheter, etc., ça nous renvoie à une certaine forme de violence de nos vies, mais qu'on laisse sous silence, mais en fait, c'est des vies qui sont fortes, qui sont riches d'expériences, de vécu, de vie. Et voilà, c'était mon petit mot à faire passer, qu'il faut pas en avoir honte, et bien au contraire en être fier.
Et ça, ça passe dans la littérature et dans ce texte-là qui s'appelle « À l'ombre des choses » d'Anatole Édouard Nicolo, qui a paru aux éditions Kalman-Lévy. On passe à votre deuxième choix, Giorgio. Oui.
Le prochain livre, c'est un livre de Henry Miller qui s'appelle « Un diable au paradis ». Et juste pour l'anecdote, c'est...
Jolie édition.
Ouais, alors c'est ma grand-mère qui l'a lu et qui m'en a parlé aux fêtes de Noël dernier. Ma grand-mère habite à Paris. Et donc, du coup, en allant chez elle, elle m'a dit « Ah tiens, tu liras ça ». Et je l'avais pris dans l'avion à un moment où j'avais voulu couper de tout et partir aux États-Unis. Et du coup, j'ai eu la chance d'aller à Big Sur et de visiter la maison de Henry Miller, dont il n'arrête pas de parler, de décrire...
Mais par hasard ?
Un peu par hasard, parce que je ne savais pas où c'était en Californie, mais moi, je savais que j'allais à Los Angeles. Je ne savais pas du tout où allait se passer ce livre, vu que je l'ai lu dans l'avion. Et en me renseignant, j'ai vu que c'était pas si loin de ça, de Los Angeles. Et j'ai une amie qui est américaine qui habite là-bas et qui m'a dit « Mais viens, on y va, on prend ma voiture, on y va. » Et comme ça, je te montre, j'y suis déjà allé. Ils ont transformé sa maison en une librairie, on peut aller la visiter, etc. Mmh. Et donc, c'était un truc un peu magique comme ça, de lire un bouquin et de pouvoir aller m'y plonger directement, quoi.
Vous lisez un extrait ? C'est un livre qui est paru en 1956.
En fait, c'est... Voilà, pour mettre un petit contexte, donc c'est Henry Miller, qui est un écrivain américain qui a vécu à Paris, qui avait rencontré un homme, un peu un loser, qui se laisse abattre par la vie, très compliqué, qui ne croyait et qui ne jurait qu'à travers l'astrologie et qui était vraiment misérable. Et donc Henry Miller a voulu l'aider et l'a invité à vivre chez lui aux États-Unis. Lui a payé son billet d'avion, l'a fait venir, l'a nourri, logé chez lui, lui donné de l'argent pour vivre. Et en fait, ce mec était exécrable, se laissait tomber, mais parce qu'il aimait ça qu'on prenne soin de lui, ne voulait jamais s'en sortir et critiquait tout. Et donc, il y a un moment où il parle de l'astrologie, etc. Et donc, en fait, Henry Miller répond... parce qu'il proteste sur tout ça et il dit « Peut-être suis-je resté terriblement américain, dis-je, c'est-à-dire naïf, optimiste, jobard. Peut-être, au cours de mes fécondes années en France, n'ai-je rien tiré d'autre qu'un renforcement et un approfondissement de ma nature originale. Aux yeux d'un Européen, que suis-je sinon un Américain 100% ? Un Américain qui exhibe son américanisme comme une plaie. Que cela vous plaise ou non, je suis un produit de cette terre d'abondance, quelqu'un qui croit à la surabondance, qui croit au miracle. Les privations dont j'ai souffert, je les ai endurées de mon propre chef. Je ne blâme personne que moi-même de mes malheurs et de mes afflictions, de mes manques et de mes fautes. Ce que vous imaginez qu'aurait pu m'apprendre une connaissance plus approfondie de l'astrologie, je l'ai appris par mon expérience de la vie. J'ai commis toutes les erreurs qu'il est possible à un homme de commettre, et j'en ai payé le prix. J'en suis bien plus riche, bien plus sage et bien plus heureux, si je puis dire, que si l'étude et la discipline m'avaient enseigné à parer aux chastrapes et aux traquenards. L'astrologie s'intéresse aux potentialités, si je ne me trompe. L'homme potentiel ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'un homme actualise ou réalise de son potentiel. Et qu'est-ce que l'homme potentiel, en fin de compte ? N'est-ce pas la somme de tout ce qui est humain, divin en d'autres termes ? Vous me croyez à la recherche de Dieu ? Non, Dieu est, le monde est. L'homme est, nous sommes, la réalité pleine, c'est Dieu, et l'homme, et le monde, et tout ce qui y est, y compris l'innommable. Je suis pour la réalité, pour une réalité de plus en plus grande. Je suis un fanatique de la réalité, si vous voulez.
Qu'est-ce qui vous touche là-bas ? Qu'est-ce qui vous touche dans ce texte-là, Giorgio ?
Ce qui m'a touché, c'est l'acceptation de la vie pleine, c'est-à-dire... je suis mes fautes, je suis mes erreurs, je suis mes regrets. Et en fait, j'apprends pas la vie, mais je la vis. J'apprends à travers mon vécu et c'est ce que je suis. Et il y a sûrement une grande part de naïveté, mais qui m'a touché parce que finalement, c'est aussi comme ça que je pense. Et c'est ce que j'essaie le plus de faire, c'est d'être dans l'instant présent. Et c'est en cela que Henry Miller croyait. Et c'est ça qui m'a touché. Et ça n'empêche pas d'avoir une forme de spiritualité, de Dieu est, le monde est, l'homme est. Et finalement, c'est notre réalité. Et ce qui m'intéresse, c'est la réalité et pas forcément les astres.
je crois au commencement, comme tous les jeunes. Hein. Alors j'avais presque 40 ans, j'étais pas du tout jeune, mais jeune d'esprit. Je crois que peut-être je peux changer le monde. Cet idiot a dit, n'est-ce pas? Et c'est Saint François qui m'a instruit. Il y a une phrase, je ne sais pas si elle est exacte ou non. Saint François disait aux disciples, il ne faut pas essayer de changer le monde. Changer le monde. Change your world, your vision. Put yourself in another world. Yeah, change your world. Je crois que maintenant j'ai découvert quelque chose de moi-même. Pourquoi j'avais écrit, qui je suis, et tout cela, les questions importantes pour tout homme, n'est-ce pas? Pourquoi il est ici, son but dans la vie, etc. Maintenant, je ne vois aucun but. Le chemin est ouvert pour moi, oui.
Et vous verrez que dans d'autres livres, on y revient un petit peu, un peu à cette vie pleine, mais et à vivre maintenant, à être dans l'instant présent, à être ancré dans la réalité et que le monde qui se passe c'est maintenant et ça me touche beaucoup.
Bah avec lequel alors par exemple?
On va retrouver ça avec Iti Ilsum, Une vie bouleversée. Et donc voilà. Donc en fait, c'est son journal qu'elle a écrit un peu avant celui de Anne Frank, où elle rencontre un homme qui est il a un rôle un peu bizarre dans sa vie. Il paraît presque un petit peu comme un gourou, comme un amant à des moments. Et en même temps, c'est cet homme qui lui conseille d'écrire son journal. Donc c'est elle l'a écrit voilà entre 41 et 43, et c'était une jeune femme juive.
Qu'elle a été déportée en 1944,
oui.
Et qu'elle est morte.
Qu'elle est malheureusement décédée à 29 ans. Et donc toute la première partie du livre, c'est son journal. Et la seconde partie, ça va être des lettres. Et en fait, moi, ce qui m'a plu dans ce livre, avant de lire une page, c'est que c'est rempli de joie de vivre. Et pour moi, c'est un exemple de sa manière d'avoir envie, d'avoir ses expériences sexuelles, ses expériences à la littérature, son envie de vivre, son rapport à la religion, alors qu'elle se sait d'une certaine manière condamnée et que ça n'empêche pas la vie, et bien au contraire. Et son écriture est très simple, et en même temps, de par le contexte et de comment elle décide de vivre sa vie, très poétique et très touchant.
On lit ? Vous lisez ?
Ouais. Alors c'est donc le vendredi 21 mars, 8h30.
Et c'est en 41 du coup ? On imagine, parce que c'est le tout début.
Oui, tout à fait, ouais. En fait, je ne veux rien noter. Je me sens si légère, si rayonnante, si allègre, que face à tant de grâce, le moindre mot a des semelles de plomb. Pourtant, ce matin, j'ai dû conquérir cette joie intérieure sur un cœur inquiet et palpitant. Mais après m'être lavé à l'eau glacée, de la tête aux pieds, je me suis étendu sur le carrelage de la salle de bain, assez longtemps pour retrouver un calme parfait. Je suis désormais prête au combat, et ce combat n'est pas sans me remplir d'une certaine excitation sportive. Je dois apprendre à vaincre ce vague sentiment d'angoisse. Certes, la vie est dure, c'est un combat de tous les instants, allons en exagérant rien ma chérie, mais ce combat m'attire. Avant, je me projetais dans un futur chaotique, car je refusais de vivre l'instant d'après, le futur immédiat. Comme une enfant gâtée, je voulais que tout me fût offert. J'avais parfois la conviction, encore qu'elle fût très vague, de devenir quelqu'un, de faire de grandes choses, alternant avec la crainte chaotique de disparaître sans laisser de traces. Je commence à comprendre pourquoi. Je refusais d'accomplir les tâches qui se présentaient à moi, de m'élever degré par degré vers cet avenir. Mais aujourd'hui, où chaque minute est pleine de vie, d'expérience, de lutte, de victoire ou de rechute, suivie d'un retour à la lutte, aujourd'hui je ne pense plus à l'avenir. Il m'est indifférent de faire ou non de grandes choses. Parce que j'ai l'intime conviction que de la réussite ou de l'échec, il sortira toujours quelque chose. Avant, je vivais au stade préparatoire. J'avais l'impression que tout ce que je faisais ne comptait pas vraiment, n'était que la préparation à autre chose, à quelque chose de grand, de vrai. Tout cela m'a quitté. Aujourd'hui, à la minute présente, je vis pleinement. La vie vaut d'être vécue, et si j'apprenais que je dois mourir demain, je dirais dommage, mais je ne regrette rien. Je me souviens que j'ai déjà fait cette déclaration en théorie, un soir d'été où j'étais avec France à la terrasse de Rensselaer, mais je le disais plutôt par lassitude. Après tout, si demain c'est la fin, je ne m'en ferai pas trop. Après tout, nous avons eu le temps de nous faire une idée. Nous connaissons cette vie, nous avons tout vécu, même si c'est en esprit, nous ne nous accrochons plus à la vie avec le même acharnement. Nous nous sentions très vieux, très sages et très lasses. Aujourd'hui, c'est différent. Et maintenant, au travail. Ça m'a vachement touché parce que ça m'a, encore une fois, un sentiment d'identification de qu'est-ce que j'ai envie de faire dans le rap, comment j'ai envie de le faire, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à la vie, comment j'ai envie de la vivre, de vivre. Et cette intime conviction que de la réussite ou de l'échec, il en sortira toujours quelque chose, ça m'a plu parce que c'est, pour moi, c'est là où la vie prend sens, c'est dans l'action. Et je crois que c'est une phrase de Audiard qui m'a aussi beaucoup marqué, qui disait « Un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis ». Et finalement, c'est sa prise de conscience d'arrêter de rêver quelque chose de grand, de penser des grandes actions et de vivre le quotidien, de vivre encore une fois pleinement et d'être dans l'action, et que quoi qu'il arrive, c'est comme ça qu'on crée les expériences et c'est ça qui nous font grandir, c'est ça qui nous rend plus forts, plus grands, plus intéressants. Ça m'a beaucoup plu. Voilà.
Il y a deux autres choix.
Oui.
Il y a A16 ou Étranger sur la grève.
Lequel préférez-vous ?
Bah, je n'ai lu ni l'un ni l'autre.
Eh bien, je pense que je vais choisir A16 pour finir sur un Étranger sur la grève où il y aura peut-être plus d'émotions. Et sur A16, on va retrouver quelque chose aussi qui est un petit peu comme ça, encore de l'action, du goût, de l'effort. A16, je l'ai découvert grâce à une amie qui s'appelle Marie, qui est critique littéraire, qui est une jeune femme grecque. Et moi, j'adore la Grèce, j'adore Athènes. C'est une ville que j'aime beaucoup, j'y vais presque au moins une fois par an. Et pour autant, je connaissais rien à la littérature grecque. Et je lui ai dit, mais qui sont les grands auteurs grecs? Qu'est-ce qu'on peut lire pour comprendre? Et donc, elle m'a conseillé Nikos Kazantzakis. Et donc, Assès, qui est un livre assez court, mais assez difficile à lire parce qu'il est très riche, d'un peu moins d'une centaine de pages, ou qui est un livre qui serait un petit peu comme sa Bible à lui, comme sa. Il a dit que si on devait retenir qu'une seule œuvre, ça serait celle-là, parce qu'en fait, il explique sa manière de voir, de penser. C'est un homme, pareil, avec une très grande spiritualité, mais où sa spiritualité laisse place à énormément de réflexions, etc.
Vous avez peut-être vu comme le ver à soie file son cocon. Il dévore les feuilles du mûrier avec avidité pendant à peu près un mois. Il atteint la longueur d'un petit doigt et brusquement, il cesse de manger. De gris blanc, il est devenu jaunâtre. Son organisme est le siège d'un profond bouleversement. La peau mate est devenue transparente. Ses entrailles sont devenues de la soie. Il se met à osciller la tête en éventail, très lentement. Un fil presque invisible sort de sa bouche et la construction du cocon commence. En quelques jours, cette coque est tissée avec une sûreté infaillible. Il s'y enferme en forme de chrysalide et il attend le printemps. Il fait alors un petit trou à sa tombe et il en sort papillon blanc aux petits yeux noirs. Je me sens pareil à un ver de soie lorsque j'écris un livre. La raison résonante ne joue point le rôle principal. Je ne fais pas de plan. ils sont faits à mon insu. Je ne m'inquiète pas où trouver les péripéties de mes personnages. Chaque matin que je me mets au travail, je ne sais pas ce que je vais écrire. Mais je ne m'inquiète pas, car je sens inconsciemment que tout est achevé en moi. Je n'ai qu'à le faire sortir.
Le cri décrète en moi la mobilisation. Il proclame en moi, il proclame. Moi, le cri, je suis ton Seigneur et ton Dieu. Je ne suis pas un refuge. Je ne suis pas une maison, une espérance. Je ne suis pas le Père. Je ne suis pas le Fils. Je ne suis pas l'Esprit. Je suis ton Général. Tu n'es pas mon esclave, ni un jouet entre mes mains. Tu n'es pas mon ami, tu n'es pas mon fils. Tu es mon camarade de combat. Occupe vaillamment les défilés que je t'ai confiés. Ne les cède pas. Tu as ton poste, le devoir et le pouvoir de devenir un héros. Aime le danger. Qu'y a-t-il de plus difficile? C'est cela que je veux. Sur quel chemin t'engager? Sur le plus raide, le plus escarpé? C'est celui que je prends. Suis-moi. Apprends à obéir. Seul celui qui obéit à un rythme supérieur est un homme libre. Apprends à commander. Seul celui qui peut commander est mon représentant sur cette terre. Aime la responsabilité. Dis-toi, moi seul ai le devoir de sauver la terre. Si elle n'est pas sauvée, ce sera ma faute. Aime chacun selon sa contribution au combat. Ne cherche pas d'amis, cherche des compagnons. Sois toujours inquiet, toujours insatisfait, toujours rebelle. Lorsqu'une habitude finit par être confortable, brise-la. Il n'y a de plus grand péché que la satisfaction. Où allons-nous? Vaquerons-nous un jour? À quoi bon tout ce combat? Tais-toi. Les combattants ne posent jamais de questions. Je me penche, étant l'oreille à ce cri de guerre au fond de mes entrailles. Je commence à deviner le visage du chef. Je perçois sa voix. J'accepte avec joie et effroi ses rudes commandements. Et ce qui m'a touché dans ce texte, c'est encore une fois à quel point, et moi c'est ma philosophie de vie ça va être le goût de l'effort et continuer constamment à faire des efforts, constamment à apprendre de nouvelles choses, à se remettre en question, à se mettre au pied du mur, à vivre
un petit reste du basketball.
C'est possible. Moi, je fais encore beaucoup, beaucoup de sport. Je me mets tout le temps à des nouveaux sports. Et j'ai un grand goût de l'effort et de la compétition. J'ai toujours eu ça. J'ai toujours aimé ça. Je suis énormément de sport. Et c'est pareil dans mon rapport à la musique, d'essayer des nouvelles choses, de continuer à écrire. Parce que pour moi, le jour où on est satisfait de soi-même, le jour où on reste dans sa zone de confort et qu'on va plus se chercher, se mettre en difficulté, se mettre en danger, c'est le début de la fin, quoi, d'une petite mort. Et je parle dans une vie en général, je parle même pas dans une vie artistique, où là, c'est encore plus le cas. Et je trouve que ce passage raconte très bien cela.
Et ça, dans ce passage, il est question d'une voix intérieure, même d'un cri intérieur. Vous êtes animé par quoi? Ça vous suffit de dire ce que vous me dites là à voix haute, Giorgio, ou vous avez aussi une sorte de cri à l'intérieur de vous qui dit « oui, vas-y, 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 vas-y ».
Non, j'ai un cri à l'intérieur de moi qui est, comment dire, qui est où j'ai tous mes combats, parce que dedans, il y a toutes mes contradictions entre ce que je veux faire dans la musique, mais ce que je veux aussi être, à quel point j'ai envie de potentiellement d'être écouté par un grand nombre, encore plus, de vendre encore plus d'albums, d'être encore plus grand, mais à quel point aussi j'ai pas envie de me soumettre à des codes qui peuvent être beaucoup plus commerciaux, etc. À quel point j'ai envie de faire ma musique le plus librement possible, à quel point je crois en ça. Et parfois, j'ai ce goût d'effort où je vais travailler sans cesse. Et parfois, je n'ai pas du tout envie. Et je vais être hyper feignant et en faire le moins possible. Et ça me tiraille. Et ce sont des rappels qui me donnent envie de me booster, de faire plus, de justement de rien lâcher et d'être dans l'action, encore une fois, toujours.
Je raconte que mes pensées, que mon histoire, loin d'être dans une tour d'ivoire. Je suis dans la réalité avec un hoodie noir. Avec mes potes on se booste à fond, on sait que c'est pas un sprint mais une course de fond. Bonbon à la witch, vis et pose sur le son. Je pense qu'à aider mes parents, à leur rendre tout ce que je leur dois. Oui c'est bien grâce à eux si j'ai confiance en moi. Et comme toi je suis le fils de Dieu, je crache des rimes de feu. Je suis dans mon coin mais le temps qui passe m'aide à ouvrir les yeux. C'est vrai qu'ils sont rares ceux qui ont une vie heureuse. et ceux qui l'ont doivent culpabiliser. Je me sentais déjà homme bien avant le lycée. J'ai perdu mon innocence dès le début de mon odyssée. Obligé de voyager, de voir comment ça se passe autre part. J'ai appris à donner, appris à recevoir, appris à rien attendre de l'autre. Savoir reconnaître mes fautes dès le soir, posé sur FIFA à l'heure des maraudes. C'est tout pour moi, c'est tout pour moi. Ouais.
On termine avec le livre dont vous parliez tout à l'heure.
Oui. Étranger sur la grève. Donc c'est un auteur, Toshok, qui est d'origine chinoise, de Malaisie aussi, etc., qui parle de son métissage, de sa vie, et donc qui parle de sa famille. Je vais aller sur la page 122. Et il dit « Pour notre famille et d'autres comme nous, la séparation est une expression de l'amour. » Pas seulement au sens physique, mais dans notre manière de penser. Nous voulons que nos enfants reçoivent une éducation et qu'ils aient un emploi, qu'ils connaissent la vie telle que nous avons jamais pu la connaître, sachant que tout ce qu'ils gagneront les éloignera encore davantage de nous. Aimer quelqu'un signifie s'en séparer. Le futur se vit par procuration, à travers leurs accomplissements. Leur existence doit suivre une trajectoire ascendante. Ils ne doivent pas échouer. C'est cela que signifie la mobilité sociale en Asie aujourd'hui. Quand je te regarde en cet instant, frêle mais assez forte pour parler et couvrir le sifflement aigu de ton appareil auditif qui n'a jamais très bien fonctionné, je suis frappé que toute cette distance entre toi et moi nous ait fait nous sentir plus proches que jamais. Je sais que tu peux m'entendre malgré ce gémissement mécanique infernal, tu en as toujours été capable.
C'est un roman qui est tout récent, qui est paru en 2021 et dont le titre c'est « Étranger sur la grève, portrait de famille ».
Ce qui m'a beaucoup plu et ce qui a fait écho à ma vie et à ce que j'ai pu vivre, c'est donner une éducation et qu'on ait un emploi et que nos parents aient souhaité qu'on ait une vie telle qu'ils ne l'ont jamais connue et que finalement ça nous éloigne aussi d'eux, que le futur se vivait aussi par procuration. Et,
parce que quand même, ce qu'on peut dire à nos auditeurs, c'est que cette réflexion sur la séparation comme une preuve d'amour, ça vient après une question que ce jeune homme adresse à je sais plus qui, sa grand-mère ou ses parents, en disant « Mais pourquoi est-ce que t'as laissé ton bébé de 6 mois ou de 10 mois ?» Voilà.
Oui, oui.
Et la réponse, c'est de dire « Mais par amour, en fait. C'est précisément pour que ce bébé ait une autre vie que la nôtre que nous l'abandonnons, d'une certaine manière. » Et de là, il réfléchit à la question de la séparation comme une preuve d'amour.
Tout à fait. Et moi, ça, du coup, ça a fait écho à ma vie parce que ma grand-mère a eu ma maman très jeune, et ce qui me permet aussi d'avoir une relation aussi cool avec ma grand-mère aujourd'hui. Et en fait, ma mère, du coup, a été élevée chez sa grand-mère bébé avant de revenir avec sa maman. Et en même temps, cette vie par procuration, je sais que mes parents l'ont aussi beaucoup eu à travers ma réussite dans la musique. Ils peuvent aussi vivre une certaine forme de succès par procuration à travers moi. Et je sais que mon père, il avait toujours ses recherches Giorgio Google, et comme ça, dès qu'on parlait de moi, il recevait, et mon père m'envoyait toutes mes interviews. Dès que ça parlait de moi, il était capable. Et mon père n'a pas fait d'études, n'a jamais gagné beaucoup d'argent. Et au début, comme il connaissait très bien quand même le milieu de la musique, etc., dans mes premiers contrats, il pouvait m'aider à me dire ça c'est bien. Et puis à un moment, il m'a dit mais là, c'est des sommes que j'ai jamais vues. J'ai envie de te dire oui, mais ça se trouve tu peux avoir le double. J'en sais rien. Je peux plus t'aider. Toutes mes dates parisiennes, il a toujours été là. Et c'est pour moi c'est ma fierté aussi de pouvoir rendre ça. Et ça raconte aussi quelque chose sur nos séparations ou même sur des... Par exemple, je vais basculer sur un autre livre que j'ai lu. Malheureusement, je ne me rappelle plus du titre, de Bell Hooks, sur la masculinité, etc. Parce que moi, là, je suis au début de ma déconstruction.
Alors, je pars de très loin.
Mais en tout cas, j'essaye, je commence. Et donc sur des sujets comme ça où je pouvais en parler avec mon père parce qu'il est malheureusement décédé il y a pas longtemps. Il y a des moments où on n'était pas d'accord sur des termes que, où je disais, mais non, mais tu vois, là, ça, c'est un problème qui devrait pas être un problème, etc., sur la manière de pouvoir se livrer, de se dire des choses, etc. Et donc, finalement, tous les sacrifices qu'ont fait mes parents pour que je puisse avoir une bonne éducation, pour, et encore une fois, j'ai encore beaucoup plus de chance que Tash-O, qui, où c'était un milieu encore plus difficile à l'étranger, encore plus pauvre qu'en France. Et ça, j'en suis bien conscient. Et d'ailleurs aussi, je suis d'origine guadeloupéenne, aux Antilles, c'est encore une fois plus difficile qu'en métropole. Il y a plein de problèmes que la France met un peu sous le tapis, qui se passe aux Antilles, qui se passe ailleurs. C'est encore un autre sujet, mais j'en profite pour en parler puisque j'ai un temps de parole. Et donc, je sais que d'avoir grandi en France métropolitaine, c'est quand même une chance, etc. Mais ce livre a pu aussi faire écho à moi et me rendre compte aussi à quel point aussi ça, sur certains sujets, il pouvait y avoir une sorte d'éloignement, alors qu'eux se sont d'une certaine manière sacrifiés pour nous, pour qu'on ait des vies plus belle, plus riche, et qu'en fait tout ça c'est qu'amour, et que je sais que j'essaierai de faire encore aussi ce sacrifice si un jour je suis amené à avoir des enfants pour qu'ils aient encore une plus belle vie, mais que c'est important. Et ce que j'aime beaucoup dans les livres de Tash-O, c'est de savoir d'où il vient, de comprendre son histoire, de savoir que si on est né dans une famille pauvre, il y a aussi un contexte qui a créé de la pauvreté, qui a créé des changements, etc. Et pour moi, c'est hyper fort de savoir tout ça et de savoir se rendre compte aussi de cet éloignement, mais que cet éloignement, il vient de l'amour et de la vie par procuration. C'est de l'amour pour ses enfants et tout ça. J'ai trouvé ça magnifique aussi.
Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos lectures.
Merci à vous.
Minute de silence.
Are you ready? Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord,
le livre Étranger sur la grève, lu par Giorgio, a été traduit de l'anglais par Johann Frédéric Elgage. Une vie bouleversée d'Eti Elissoum a été traduit du néerlandais par Philippe Noble. Le livre d'Henry Miller qui s'appelle Un diable au paradis a été traduit par Alex Graal. Et celui qui s'appelle Assez de Nikos Kazantzaki a été traduit du grec par René Bouchet. Pour retrouver toutes les références littéraires citées par Giorgio, vous pouvez vous rendre sur franceculture.fr à la page du Book Club. À la prise de son aujourd'hui, c'était Alexandre Martin. Au mixage, Florent Bujon. À la réalisation, Vivien Demeyer. Un immense merci à toute l'équipe du Book Club.
Ça va, le micro sous la pluie? Tu veux te mettre
Non, c'est parfait.